France Info.
Quand ses enfants grandissent, on ne peut pas dire à sa progéniture « Oh, une fois, quand t'avais 5 ans, j'ai oublié la petite souris et t'as fait une de ses têtes okay. !» Non, ça n'existe pas. En fait, comme un père parfait, ça n'existe pas non plus. Bonjour Guy Delisle.
Bonjour.
Alors, vous êtes auteur de bande dessinée, vous sortez le 4e tome du guide du mauvais père. Est-ce que ça vous a aidé pour être encore plus gaffeur avec vos enfants, d'écrire finalement un guide de mauvais père? Ça y est, maintenant vous avez vos références, vous savez comment les embêter?
Non, mais c'est donc que je peux assumer le fait de pas être toujours au top, et c'est un peu pourquoi je fais ces livres-là. C'est surtout pour me défouler.
On pense bien sûr que ça peut être autobiographique, mais est-ce que tout est autobiographique?
Je pars des petites observations qu'à la maison, donc il y a des contextes où je me dis, oh là, faudrait surtout pas faire ça ou faudrait surtout pas dire ça, parce qu'après je vais ramer pendant un mois pour rectifier le tir. Mais voilà, après, moi je viens sur ma table de travail et je me lance et je continue l'histoire pour voir jusqu'où elle pourrait aller, si j'avais fait ci ou si j'avais fait ça. Donc c'est le plaisir de faire de la narration.
Alors, ce qui est marrant, c'est quand on lit le guide du mauvais père, finalement on ne sait pas qui est le père là-dedans. Est-ce que c'est pas plutôt vos enfants qui gardent un autre enfant, en fait? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que vous leur dites souvent à vos enfants, mais vous êtes vraiment trop sérieux, quoi, en fait, non?
Il y a un certain inversement qui se fait, ouais, mais c'est vrai, des fois ils ont des devoirs à faire et moi je veux faire le clown des fois.
Et pourquoi ils devraient faire leurs devoirs aussi?
Voilà, c'est pareil, quand j'essaie de battre le record de moutarde, il me dit, mais papa, arrête, trouve pas que je suis toujours très sérieux.
Guy Delisle, est-ce que vos enfants ont lu vos BD?
Alors au début, je leur montrais pas et je passais sous silence le fait qu'il y avait un album qui sortait, le premier ou le deuxième. Sauf que là, leurs copains lisaient les histoires, leur racontaient et ça devenait un peu embêtant. Alors, je me suis assis avec eux et je leur expliquais que, voilà, papa, il fait comme travail des histoires. L'humour noir, l'humour second degré aussi, parce que tout n'est pas vrai là-dedans, je grossis un peu le trait. Et maintenant, voilà, maintenant, ils sont fans et maintenant, ils comptent le nombre d'histoires.
Ils aiment bien se voir eux-mêmes mis en scène ou pas, ou ça les fait, que ça peut les vexer aussi?
Non, ils adorent ça. Ils adorent ça, oui, ils comprennent que c'est de l'humour et ils avaient hâte que le 4e sorte pour le lire. Et après, ils comptent chacun de leur côté combien d'histoires qu'il y a avec soit Alice ou soit avec Louis, pour que ça soit équitable comme les cadeaux pour Noël.
Alors, on vous a connu, Guy Delisle, c'est vrai, de la BD de reportage, on peut dire ça, en Corée du Nord, en Birmanie, à Jérusalem. Qu'est-ce qui est le plus dangereux aujourd'hui? C'est la jungle birmane ou un goûter d'anniversaire?
Oui, parce que quelque part, je continue un peu le reportage, oui, mais je vais un peu moins loin. C'est-à-dire que je reste chez moi et je regarde un peu ce qui se passe. C'était des petites observations que je faisais aussi dans mes reportages. Parce que quand je vais à Jérusalem, il y avait des galères pour amener les enfants à l'école. Il y avait aussi des soucis avec ma voiture. Bon, moi, j'ai l'habitude de m'inspirer beaucoup des petits détails du quotidien. Donc, je les mettais même quand je racontais les histoires en Birmanie. Ou les histoires en Corée. Bon, en Corée du Nord, j'avais pas d'enfants, donc là, ça se posait pas. Voilà, je fonctionne avec les observations. Moi, après Jérusalem, je m'étais dit, je vais faire un livre vraiment où il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'histoire à raconter, que les petits trucs du quotidien. Et c'est un peu ça qui est sorti. J'en avais mis une sur mon blog. J'avais fait l'histoire avec la petite souris, le père qui oublie 3 fois de mettre le sou sous l'oreiller. Et j'ai eu un nombre incroyable de pères qui m'ont écrit.
Moi
et...
aussi, ça m'arrive, c'est ça.
Ah ouais, bon, ça arrive. Et, mais je pensais que j'étais le seul. Et du coup, ça m'a fait vraiment plaisir. Mais tiens, je suis pas le seul. L'avoir oublié et voilà, j'en ai mis 2 ou 3. Voilà, mon éditeur a dit on pourrait peut-être faire ça en livre.
Avant d'être auteur de BD, vous faisiez de l'animation et c'est ce qui vous a amené à travailler d'ailleurs en Corée du Nord et à sortir donc cette BD intitulée Pyongyang. Forcément, je dois vous poser la question, quand vous avez vu cette rencontre entre le président américain et le leader nord-coréen se serrer la main à Singapour, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous qui avez vécu en Corée du Nord?
Moi, j'ai ça en 2001 et déjà Kim Jong-il à l'époque, donc le père
de Kim Jong-un,
voilà, il envoyait déjà des missiles au-dessus de la mer du Japon, ça faisait râler tout le monde. Le fils a continué de plus belle et il est arrivé jusqu'au bout. Après, Trump, maintenant, c'est un effet d'annonce, il serre la main, c'est historique. Tant mieux, c'est bien que ces dirigeants-là se voient et qu'ils s'envoient pas des insultes par Twitter.
Dans votre BD, on voit, il y a un moment, cette administration, enfin, comme toujours dans ces dictatures-là. Est-ce que vous continuez à suivre, finalement, l'actualité autour de ce pays? Parce que j'imagine qu'y avoir vécu, combien de temps vous êtes resté
Moi, je suis resté 2 mois.
2 mois. Est-ce que, finalement, même de vivre 2 mois intégralement dans ce pays, dans cette dictature, est-ce que ça marque à vie et on continue à suivre?
Ah, ben, bien sûr, parce que moi, c'est le pays vraiment le plus bizarre que j'ai visité. En fait, c'est surtout le fait qu'eux, ils sont complètement fermés. C'est comme une bulle. Ils savent pas ce qui se passe à l'extérieur. Eux, je sais très bien, ils vont recevoir l'info comme quoi ça va être un succès immense pour Kim Jong-un de revenir avec des images de l'ennemi américain qui s'est plié à eux. Ils vont le présenter comme ça, forcément. Ils vont faire la même chose du côté des États-Unis. Après, avec Trump, il fonctionne tellement au jour le jour que dans une semaine, peut-être qu'il va annuler son voyage à Pyongyang. Là, c'est les plus grands copains du monde, mais tout peut tellement changer rapidement. Et moi, j'étais plus enthousiaste sur le rapprochement entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, qui vont, eux, peut-être faire avancer les choses, ouvrir le pays économiquement, des améliorations. Parce que là-bas, il y a quand même un peuple qui souffre et c'est pas Trump qui, en allant là-bas et visiter Pyongyang, va changer les choses.
En tout cas, on verra bien ce qui se passe. La mise à jour de Guy Delisle, c'est à suivre toute la journée sur France Info.
France Info.
Avec nous, l'auteur de bande dessinée Guy Delisle pour le quatrième tome de sa saga domestique, le guide du mauvais père. Juste en tant qu'auteur, comment on se renouvelle dans ce domaine de la paternité, de faire rire aussi avec la paternité, parce que c'était tellement utilisé aussi même rien qu'en bande dessinée, quoi. S'amuser avec ça, c'est pas compliqué.
Après, chacun a sa façon de raconter les histoires. Moi, il fallait vraiment que je m'inspire du quotidien et ce que je lisais. Je me disais, oui, il me semble qu'il y a une façon de raconter ça d'une autre façon. Donc, c'est des petites histoires où les gens s'y retrouvent. C'était un peu inspiré le lundi matin quand entre papa, on prenait un café après la maternelle et qu'on balançait sur les enfants. Il y avait un peu un côté comme ça à raconter toutes les bêtises qu'ils ont fait. Voilà, je prolongeais un peu le café à la maison en racontant les histoires. Je ne pensais pas faire 3 tomes. À chaque fois, je me dis, bon, là, je ne crois plus qu'il y a de choses à raconter. Et tout à coup, il y a 2-3 conneries qui font. Je me dis, ah, ça, c'est intéressant. Ou 2-3 conneries que je fais. Ça participe de la même façon de fonctionner.
Alors, dans vos différentes BD, il y a eu donc l'Asie. On vous promenait au Proche-Orient aussi, dans le Caucase. Vous voyagez beaucoup pour un auteur de BD. C'est vrai qu'on pense toujours accroché à sa planche, finalement, à un auteur de bande dessinée. Ouais. Vous n'êtes pas dans le cliché, finalement. Et est-ce que par rapport à vos confrères, vous n'êtes pas mis au banc?
Moi, j'ai suivi ma compagne qui travaillait pour Médecins Sans Frontières, où c'était mon travail qui m'avait amené à aller en Corée du Nord et en Chine. Après, sur place, j'ai pris des notes, parce que comme je travaillais, et c'est en rentrant à la maison, à ma table, finalement, comme un auteur de bande dessinée classique, à redessiner tout ça. Je dessine pas en voyageant dans les rizières en Birmanie. Ouais, je prends des photos comme tout le monde et je me sers de ça pour les dessiner. Donc, c'est un fonctionnement assez classique, finalement.
Vous croyez qu'on s'est habitué au fait que la BD puisse être un bon support pour parler aussi d'actualité? C'est-à-dire, avec vous, il y a de l'humour aussi, mais vous parlez d'une rien d'actualité. Quand vous parliez dans votre précédente BD d'une prise d'otage au Caucase, ouais, C'était de l'actualité. Vous pensez que c'est un bon support?
Moi, je crois, en fait, parce que déjà, le fait de dessiner, on peut enlever, mettre ce qu'on veut et être en Corée du Nord. Moi, je peux pas me promener avec un appareil photo partout. J'ai pris des notes le soir et en revenant avec la mémoire, je me rappelais très, très bien comment c'était de voir le mausolée de Kim Jong-il et d'aller voir la statue de Kim Jong-il qui était aussi complètement enfermée, le musée des amis de Kim Jong-il et tout ça. Avec 2-3 notes, je pouvais tout redessiner, mais j'aurais pas pu le filmer, le photographier, et c'était déjà en soi un outil qui était vachement pratique pour raconter ça. C'est une certaine force, ouais, bien sûr, qui n'aurait pas été possible de faire autrement.
Est-ce que finalement vous êtes une sorte de journaliste qui n'a pas pris le bon chemin? Vous êtes dessinateur, journaliste, qu'est-ce que vous êtes en fait?
Plutôt dessinateur en fait, parce que moi je raconte mes problèmes de famille avec les enfants, les amener à l'école, des problèmes de voiture. Je suis à Jérusalem, après je vais raconter ce que c'est que l'esplanade des mosquées, ce que la bande dessinée fait très très bien. La bande dessinée peut être facilement pédagogique, on peut y mettre un petit peu d'humour, elle peut être aussi très très drôle. Moi j'aime bien allier les deux. On se balade avec moi à Jérusalem, on apprend des choses, on rigole. Voilà, moi quand je lis une histoire, je rigole, j'apprends des choses, je suis assez content, j'essaie de faire un peu la même chose.
En ce moment, on le voit très bien quand on parle des grands maîtres de bande dessinée, quand on parle d'Hergé, de Franquin, c'était pas du tout le même regard qu'on pouvait avoir sur la BD à l'époque. On considérait que c'était toujours un truc pour les enfants. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pour aussi les plus grands. Et en mai dernier, il y a un crayonné d'Hergé qui s'est envolé à 600 000 euros chez Christie's. Est-ce que ça veut dire vraiment que la BD est devenue adulte, d'après vous, quand on voit ce genre de prix?
Elle est devenue adulte, oui, mais pas parce que ça se vend à 600 000 euros. Mais maintenant, chez Christie's, ils devaient se frotter les mains, tant mieux pour eux. Mais elle est devenue adulte quand on a commencé à parler de sujets matures. En fait, ça s'est fait avec Crumb, qui parlait de sa vie au quotidien, sa sexualité. C'est devenu adulte parce que voilà, des auteurs ont dit, tiens, on peut faire autre chose, comme l'a fait Art Spiegelman en parlant de son père qui a fait les camps de concentration. Donc petit à petit, des pierres ont été mises. Et puis maintenant, voilà, on a un choix quand on est lecteur de bande dessinée entre quelque chose de très réaliste, autobiographique et aussi humoristique. Ça s'est toujours resté. Maintenant, il y a une panoplie, un choix qui est beaucoup plus large.
Mais vous continuez, vous, à apprécier des BD finalement assez classiques franco-belges, genre on va dire Boule et Bill, des choses comme ça. Vous faites le même métier?
Boule et Bill, je les ai lus quand j'étais jeune. J'ai lu le dernier Astérix parce que je voulais voir un peu comment ça avait évolué. Très bien d'ailleurs. Après,
ça vous amuserait par exemple de reprendre un classique, comme c'est un peu la tendance en ce moment en bande dessinée, de reprendre, vous, Guy Delisle, un classique d'un héros, je ne sais pas lequel?
Moi, les BD qui ont bercé mon enfance et qui m'ont vraiment marqué, c'est les Schtroumpfs. Là, je ne pense pas que je serais capable de reprendre les Schtroumpfs. Après, il y a Fred de Philémon, que j'adore par-dessus tout. Et là, je ne pense pas que j'aurais non plus la capacité. Lucky Luke, mais là, se mesurer à Goscinny, mon Dieu, ce serait trop. C'est vraiment des monuments de la bande dessinée.
Ou peut-être pour le gag le plus simple, c'est les Schtroumpfs, non? Parce qu'au niveau du vocabulaire, non?
Une petite histoire courte des Schtroumpfs, pourquoi pas.
Bon, en tout cas, c'est noté, Guy Delisle. En attendant, le guide du mauvais père, tome 4, c'est publié chez Delcourt. Merci beaucoup, Guy Delisle, d'avoir passé la journée sur France Info.
Merci.